Des choses que je dois écouter qui ne sont pas à l'antenne.
C'est vous qu'on va écouter dans un instant et vous venez de passer à l'antenne. Bonsoir à vous Bertrand Piccard, il est 19h20.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ah bah vous le connaissez, cet homme qui est avec nous ce soir. Vous le voyez depuis des années faire des exploits technologiques destinés à nous apprendre des choses. Vous l'avez vu récemment, il était partout dans son avion, fait entièrement de panneaux solaires, le Solar Impulse et son tour du monde. Nous avons tous salué l'exploit technologique tout en nous disant bien sûr que des vols habités de ce type, c'est pas pour bientôt, mais et donc maintenant. Eh ben, le maintenant, si je puis dire, c'est maintenant pour Bertrand Piccard qui est avec la fondation Solar Impulse et l'Alliance mondiale pour des solutions efficaces, cette alliance qu'il a créé, en train de courir la planète à la recherche de projets qui aident l'environnement, qui sont techniquement fiables, qui sont aussi viables, et on y viendra, c'est important. Il cherchait 1000 idées, il en a estampillé plusieurs centaines sur votre site, on en est à 296.
Alors il y en a 308 en tout
voilà,
maintenant.
Ça monte tous les jours, c'est ça qui est formidable. Chacune est une solution pratique pour baisser notre consommation d'énergie, pour stocker notre énergie et autres. Ça veut dire qu'on a des idées en France, on a des idées dans le monde, on a des pionniers. Vous n'êtes pas tout seul, Bertrand Piccard, savez-vous qu'on peut réutiliser de la chaleur de douche par exemple, je l'ai lu en lisant votre site. Savez-vous qu'on peut construire un module qui baisse la consommation d'essence? Autant de choses qui existent que nous ne connaissons pas nous, alors que ces solutions sont là. Il suffirait qu'elles soient faites à plus grande échelle. Vos solutions, vos clés, vos idées, votre vision de la lutte contre le réchauffement climatique, Bertrand Piccard, la COP25 qui vient de s'ouvrir, vos craintes, vos espoirs pour le monde qu'on est en train de laisser derrière nous. On parle de tout ça ensemble ce soir, on a de la chance. Bonsoir et merci.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pour répondre à votre question tout à l'heure, non, vous n'entendrez pas d'éléments sonores, donc vous mettez ou vous enlevez votre casque. En tout cas, on a plein de questions pour vous. Ce soir, vous nous parlerez aussi de tous vos projets. Sophie Bécherel est là également avec nous. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
D'être notre caution scientifique également, surtout à côté de moi. Je voudrais qu'on commence avec la question de Nora, qui nous dit que c'est son fils d'ailleurs, qui a 10 ans, qui nous pose la question et qui dit, la voiture est hydrogène, si elle est prête, pourquoi met-elle autant de temps à sortir? Est-ce qu'un jour, on pourra la voir? Et ajoute-t-il, est-ce qu'un jour, on verra une voiture solaire? J'ai vu sur votre site que vous aviez fait 778 km sur une voiture à hydrogène avec un seul plein.
Oui.
Pourquoi on en voit aussi peu, beaucoup moins que les voitures électriques? Est-ce que c'est ça, selon vous, l'avenir?
Alors, c'est une voiture électrique, la voiture à hydrogène. C'est une voiture avec un moteur électrique, mais au lieu d'avoir une batterie pour alimenter le moteur électrique,
c'est
une pile à combustible qui en fait utilise de l'hydrogène pour produire l'électricité. Alors, la voiture à hydrogène, elle existe. Elle est commercialisée. Moi, j'ai roulé avec une Hyundai Kona, qui est une... la Kona, c'est l'électrique, une Hyundai Nexo, qui est à hydrogène. Les gens peuvent l'acheter, mais c'est encore plus cher que les autres voitures. Et surtout, il n'y a pas encore d'infrastructure qui permette de distribuer l'hydrogène.
Sans que ce soit dangereux, parce que moi, la première chose qui me vient à l'esprit dans ces cas-là, c'est l'explosion, en fait, bêtement.
Ça, heureusement, c'est totalement résolu.
Okay.
Les réservoirs sont extrêmement solides. Ils ont été testés en tirant dessus au bazooka, des roquettes, etc.
Ça,
il
n'y
a pas de problème.
C'est le réseau de stations
qui n'est pas suffisant. Alors, en Suisse, ce qui s'est passé, c'est que simultanément, des chaînes de supermarchés ont commandé des camions à hydrogène, ce qui a fait que, comme ils en ont commandé 1000, ça devenait rentable d'installer des stations. Mmh. Donc, il y a eu tout ensemble qui est en train de se créer. En France, c'est ça qu'il faudrait maintenant. C'est un plan national avec des clients qui commandent des véhicules hydrogène, qui justifient de mettre des stations de distribution. Et on y arrivera parce que c'est extrêmement positif comme résultat.
Est-ce qu'il vous semble que c'est mieux? Parce que vous le disiez, effectivement, la vraie différence, c'est la batterie. On sait bien ce qui se passe aujourd'hui.
C'est la pollution, surtout.
Et alors, mais par rapport à la voiture électrique, pardonne-moi.
Par rapport à la voiture à batterie.
Exactement. Donc, la vraie complication, c'est la batterie. Parce qu'on a un problème de recyclage et aussi, et on y viendra sûrement parce que c'est le cas sur plein de nos ustensiles, y compris ustensiles verts, les métaux rares, donc la pollution pour aller les chercher, le problème géopolitique même que ça pose. Donc est-ce qu'on se dit que la batterie aujourd'hui, pour l'instant pourquoi pas, mais c'est pas l'ustensile d'avenir, on va dire?
Je pense que la batterie c'est excellent si on fait des petits trajets. Et si on n'a pas besoin de transporter des tonnes de batteries avec soi, et puis si la voiture avec des batteries peut servir aussi à tamponner le réseau électrique, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de solaire et d'éolien, on charge la batterie, et puis quand il n'y en a pas assez, la voiture se décharge sur le réseau pour gommer les pics de consommation. Et puis alors pour des plus longues distances, camions, trains, péniches, avions, l'hydrogène va être plus simple parce que c'est plus léger à transporter. Et j'ai lancé aujourd'hui le défi à Air France, parce qu'on a annoncé un partenariat entre ma fondation et Air France. Je leur ai lancé aujourd'hui le défi de passer une commande officielle à Airbus pour un avion à hydrogène. Alors, je pense qu'Airbus va devoir accepter, parce que c'est intéressant de se lancer là-dedans. La seule chose, c'est qu'ils ne pourront pas donner un délai de livraison. Ça, c'est la seule chose.
Sophie Bécherel. Arrêtons-nous justement sur l'avion. Après le tour du monde avec Solar Impulse, vous avez dit on ne transportera pas 50, 100 passagers tout de suite. Votre copilote de l'époque, André Borschberg, vient de créer un petit avion pour apprendre à piloter, électrique. Et là, vous nous parlez de l'avion à hydrogène. Est-ce que les deux voies vont être poursuivies, les avions électriques et puis les avions à hydrogène, ou qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour l'avion, vu le, ou alors plus d'avions du tout, puisqu'on le voit, il y a un mouvement sociétal pour dire ne voyageons plus en avion.
Oui, mais ça, c'est prendre l'avion comme bouc émissaire, et je pense que c'est complètement faux. Vous savez que le streaming de vidéos pornographiques et de vidéos de chats représente déjà à L2 la moitié des émissions du transport aérien. Donc il faut arrêter de prendre des boucs émissaires. Le textile, c'est 7%.
Et arrêter les chats et le porno.
Alors que l'aviation, c'est 2 à 3%. Non, il ne faut pas prendre des boucs émissaires. Il faut tout réduire sans pointer du doigt un ou l'autre. Alors, ce qui est intéressant avec l'avion électrique, c'est que ça marche, que ça existe et que ça fonctionne. Et on peut en avoir pour 2 places, pour 4 places, bientôt 9 places. Il y a une société qui travaille là-dessus. Je pense que dans 7 ans et demi, on peut avoir des avions 50 places. Qui feront du court courrier, mais ça veut dire 500 kilomètres. Maintenant, si on veut faire plus que ça, je pense que l'hydrogène est une bonne solution.
Vous disiez que vous avez lancé un défi à Airbus, vous faites partie...
À Air France.
Vous faites partie de ces gens, effectivement, Bertrand Piccard, qui pouvaient discuter directement avec Air France et avec d'autres grands PDG, avec les Total et autres. Moi, je voudrais savoir si, selon vous, y compris ces grandes entreprises, font cet effort-là, font vraiment cet effort vers autre chose, ou si on est dans une forme de greenwashing un peu partout dans ces grandes entreprises-là. Est-ce que ce sont nos alliés ou pas, selon vous?
Alors, ce sont nos alliés et ça doit être nos alliés parce qu'on ne pourra jamais lutter contre les grandes entreprises. Il ne faut pas oublier que les grandes entreprises, elles payent des salaires, elles payent des charges sociales, elles créent une qualité de vie, elles créent un pouvoir d'achat. Donc, le but, ce n'est pas de lutter contre elles. Et on voit, mais surtout en France, hein, Emmanuel Macron a lancé des coalitions de manière très intelligente dans l'industrie du textile, dans l'industrie alimentaire, dans le maritime, etc., pour regrouper des entreprises qui montrent la voie, qui sont des pionnières et qui prennent des décisions très ambitieuses. Maintenant, ce qui manque parfois, c'est la majorité des entreprises qui suivent les entreprises pionnières. Et c'est là qu'il faut des réglementations pour forcer ceux qui résistent à suivre l'évolution de ceux qui montent le chemin.
Par exemple, dans vos fameux 308 projets, ceux que vous avez estampillés, parce que vous savez qu'ils existent, qu'ils peuvent exister, qu'on peut réellement les développer. Je citais tout à l'heure, parce que ça m'a fasciné, l'idée de réutiliser la chaleur de la douche ou construire ce fameux module qui baisse la consommation d'essence, une maison qui tourne avec le soleil. Une fois que ces projets existent, que vous les avez vus, on sait que ça peut marcher. Qu'est-ce qui se passe en fait avec ces projets-là?
Alors, ce qui se passe, c'est que d'habitude, les entreprises n'arrivent pas à les commercialiser, elles ont beaucoup de problèmes et souvent elles font faillite. Nous, ce qu'on veut, c'est tirer cette innovation sur le marché en montrant à tous les utilisateurs possibles que ça existe, que c'est rentable, qu'il faut jouer le jeu. Et demander aussi aux autorités publiques, au gouvernement, de mettre des normes environnementales et énergétiques qui créent une nécessité pour utiliser ça. Vous savez, si aujourd'hui vous avez le droit de continuer à mettre autant de particules dans l'atmosphère, eh bien le module qui s'appelle anti-smog, il va jamais avoir de succès. Parce que tout le monde se dit, mais ce que je fais est légal, pourquoi est-ce que je changerais? Or aujourd'hui, depuis que ces réglementations archaïques ont été établies, eh bien la technologie a tellement évolué qu'il faudrait absolument pousser ces réglementations à évoluer. Alors, ça ne veut pas dire avoir plus de réglementations, parce que parfois, ces réglementations empêchent les nouvelles technologies d'arriver sur le marché. Aujourd'hui, c'est interdit de brancher votre voiture électrique pour la décharger sur le réseau et alimenter votre maison pour gommer un pic de consommation. Donc, parfois, c'est des réglementations qui autorisent des nouvelles technologies dont on a besoin.
David nous dit que l'hydrogène qu'on achète actuellement provient du pétrole, donc c'est un hydrocarbure. On a beaucoup de questions dans ce sens-là, qui dit au fond qu'on se mord la queue. Qu'est-ce que vous en dites
David a tout à fait raison qu'aujourd'hui, c'est pas optimal. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'hydrogène qui est fabriqué à base d'électricité charbonnée ou à base d'énergie fossile. Il y a des filières françaises qui sont en train de se développer. Vous avez des entreprises qui poussent ça à fond, Accuo Energy, très belle entreprise française qui a d'ailleurs battu le record du monde de l'énergie solaire la meilleure marché, 1,4 centimes le kilowattheure. Donc très très beau, ils ont installé ça au Portugal. Et eux aimeraient beaucoup aussi lancer une filière hydrogène. Il y a des gens en Normandie ou en Bretagne, je sais plus, qui veulent fabriquer de l'hydrogène pour stocker l'énergie éolienne offshore. Donc ça vient, mais il faut que le gouvernement lance un vrai message clair pour que tout le monde s'y mette.
Mais ça veut dire que si on n'y est pas encore, est-ce que c'est une question d'argent, d'investissement? Est-ce que c'est une question de volontarisme? Est-ce que c'est une question de manque de courage politique? Vous diriez que le problème est où?
Là, je vais vous répondre comme psychiatre et pas comme explorateur. Okay. Y a très peu de gens qui sont d'accord de changer quelque chose à leur vie s'ils ne sont pas forcés de le faire. Ils attendent une crise ou ils attendent une obligation.
Donc vous voulez dire qu'on attend 2049 pour le décarbonage en 2050, on n'est pas sorti des ronces.
Le problème, c'est que c'est souvent un peu ça. Je déteste cette date de 2050 parce que personne ne sera là pour rendre compte. Moi, j'aime beaucoup mieux ceux qui disent qu'en 2025, ils auront enlevé 30% plutôt que d'attendre 2050 pour enlever 100%.
On a cette question que j'ai perdue, mais qui revient tout de suite, celle de Christophe, et qui nous dit « Nous sommes envahis par les plastiques qui polluent la planète, pourquoi ne pas les utiliser comme matière première ?» Il y a une chose que j'ai vue dans les...
Mais j'aime bien vos auditeurs.
Mais nous aussi, on les aime bien, nos auditeurs.
Ils sont hyper adéquats,
attendez,
c'est vrai.
Il y en a plein.
Ça s'appelle la pyrolyse.
Oui, alors, mais il y a d'autres choses. Moi, j'ai vu, par exemple, un truc incroyable dans les projets que vous avez estampillés, dont un avec des sacs plastiques qui sont faits à base de lait. C'est ça? De particules qu'on n'utilise pas dans le lait.
La caséine.
Exactement. Voilà, c'est des protéines qui sont jetées dans l'industrie laitière, qui sont des déchets et qui peuvent être polymérisées pour faire des sacs en plastique biodégradables et comestibles.
Et là, je rejoins ce que dit notre ami Christophe, mais qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi j'en ai jamais vu des sacs plastiques à base de lait?
Alors, d'abord, parce que les gens ne savent pas que ça existe. Donc, nous, notre rôle à la Fondation Solar Impulse, c'est de faire des appels à solutions, de les labelliser et ensuite de les promouvoir. C'est d'en parler dans des émissions comme aujourd'hui. C'est que j'en parle quand je vais rencontrer des chefs d'État, quand je rencontre des patrons d'entreprise. Et puis, aussi, quand la réglementation permet de mettre des sacs en plastique partout dans le monde, eh bien, on ne va pas utiliser les nouvelles technologies. Et c'est pour ça que, je répète encore une fois, la réglementation, elle doit évoluer pour favoriser toutes ces technologies-là. Et puis, il faut effectivement, comme votre auditeur Christophe le disait, c'est qu'on utilise tous les déchets plastiques aujourd'hui pour faire de l'énergie, parce qu'avec à peu près un kilo de sac en plastique, on arrive à faire un kilo de kérosène par des processus de pyrolyse.
Dans la loi sur l'économie circulaire, il y a la consigne plastique, et puis on voit qu'il y a quelques jours en France, les maires, notamment des communes, et les parlementaires s'y sont opposés, et le président leur a donné raison, parce qu'il existe déjà une filière de collecte et de recyclage du plastique. Donc c'est un autre obstacle, ça. On a financé des filières de collecte et puis maintenant, il faut changer finalement la donne et faire autre chose avec le plastique.
Vous savez, on est arrivé un peu dans la deuxième loi de la thermodynamique qui est l'entropie maximale. Ça dit qu'un système énergétique qui n'a pas de l'énergie qui arrive de l'extérieur tend vers une paralysie totale, une stabilité absolue. Il n'y a plus rien qui bouge, c'est ça l'entropie. Et dans notre monde, c'est ça. Tous les règlements se sont accumulés, c'est les pelures d'oignons successives, on ne sait plus comment faire pour faire bouger les choses. Et c'est là qu'il faut vraiment des décisions politiques qui sont parfois un peu autoritaires. On dit maintenant, on met une urgence climatique, on met une urgence environnementale et on rétablit le bon sens. Mais le bon sens, il est dans tout. Aujourd'hui, on a perdu le bon sens. Aujourd'hui, on n'est même pas dans un système capitaliste. Parce que le capitalisme, il vise à augmenter un capital et à permettre d'avoir plus de consommateurs et avoir plus de gens qui vivent bien de manière à pouvoir consommer. Mais aujourd'hui, on fait l'inverse, on casse le capital, on détruit le capital. On détruit le capital nature, avec les changements climatiques et les sacs en plastique dans les océans. On détruit le capital santé, avec des produits épouvantablement toxiques dans notre nourriture. Et on détruit le capital humain en mettant des salaires tellement bas que les gens n'ont même plus de quoi vivre et en plus même plus de quoi consommer. Donc c'est moralement inacceptable. c'est économiquement stupide et c'est extrêmement dangereux pour la société. Et on marche sur la tête et il faut que ça change.
Vous disiez qu'il faut une volonté politique large. La COP25 a commencé à Madrid, vous y étiez, vous allez y retourner. Oui. Est-ce que vous sentez de la part des pays la volonté de changer ou est-ce qu'on est quand même dans cet entre-deux et cette absence de courage ?
Ce qui m'a fait un peu peur hier quand j'étais à Madrid, c'est que j'étais dans la session avec les 40 chefs d'État. Les 40 chefs d'État représentaient les 40 pays qui, tous ensemble, produisent entre 10 et 11% des émissions de gaz carbonique. Les autres n'étaient pas là. Et les autres, ils envoient des négociateurs qui essayent de résister le plus possible au changement. Et ils sont payés pour ça et ils le disent. Ils disent, nous, on n'est pas là pour faire avancer les choses, on est là pour tenir les positions que nos pays nous donnent. Donc, c'est pour ça que j'essaye de sortir de cette logique de convaincre les pays de se battre contre les changements climatiques uniquement pour l'environnement, mais j'amène clairement le message que c'est le marché industriel du siècle. Que la protection de l'environnement aujourd'hui, elle est possible si on remplace tous les vieux systèmes polluants par des systèmes propres et efficients.
Et ça. Et qui rapporte.
Et ça, c'est le marché industriel du siècle. La croissance qualitative. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Et même pour le porte-monnaie.
Bertrand Piccard, je vous ai entendu tout à l'heure prononcer le mot autoritaire. Faut-il être plus autoritaire, y compris nos régimes, parce que ça fait partie aussi des questions qui se posent pour dans les débats autour de l'écologie, y compris pour pouvoir admettre certaines idées. Donc plus autoritaire, plus coercitif, ça rejoint la question de Laurent Chiltikem qui nous dit « Peut-on lutter contre le réchauffement climatique sans changer de modèle économique ?» L'écologie est-elle compatible avec l'ultralibéralisme ? Où est-ce que vous êtes là-dessus, vous ?
Moi, je pense que si on voit la lutte contre les changements climatiques dans la voie de la décroissance, on va jouer avec le feu parce que la décroissance va amener à un chaos social. Ça va être des centaines de millions de personnes dans le monde qui vont perdre leur travail et leur qualité de vie. Donc moi, ce n'est pas comme ça que je vois le futur. Par contre, l'ultralibéralisme, comme on le voit aujourd'hui, c'est justement ça qui nous amène dans une situation qui est inextricable. Ça nous amène au désastre environnemental. Et aux désastres humains, et aux inégalités, et aux guerres civiles qui commencent à éclore par-ci par-là dans le monde. Et c'est normal parce que les gens qui n'ont plus rien à perdre, forcément, vont se révolter. Donc moi, je vois plutôt une troisième voie, qui est celle de la croissance qualitative. C'est celle où on fait de l'argent, et on crée des emplois, et on améliore la qualité de vie des gens, tout en remplaçant ce qui est polluant par ce qui est propre. Et ça, aujourd'hui, c'est une voie qui n'est pas assez exploitée. Si ça ne suffit pas, à ce moment-là, on pourra commencer à demander aux gens d'avoir plus de sobriété, de décroître un peu, etc. Mais les modèles aujourd'hui de prévision sur l'efficience énergétique, sur le nucléaire, sur l'économie circulaire, sur les énergies renouvelables, montrent qu'on peut faire une très très grande partie du chemin. Mais il faut commencer tout de suite, parce que chaque fois qu'on perd du temps pour prendre des décisions, eh bien, les décisions vont être encore plus difficiles après parce qu'il faudra faire encore plus.
On a beaucoup de questions dans ce sens-là et c'est vraiment intéressant. On a Thierry qui nous demande donc ce que vous pensez de la décroissance en disant que la technologie, au fond, vous dites, va nous sauver, mais peut aussi faire partie du problème. On a Eric qui nous dit, ne faisons pas croire que les technologies vont sauver l'humanité sans le concours, au moins de la sobriété et aussi de la décroissance. Et alors, il y a une différence entre décroissance et sobriété. Par ailleurs, est-ce que la sobriété, on peut la prôner ? Est-ce que vous avez le sentiment, vous d'ailleurs, d'être passé aussi à une forme de sobriété sans aller éventuellement jusqu'à la décroissance? Est-ce que réellement on peut arriver à ces résultats sans en passer par là, au fond?
Alors moi j'ai l'impression que la sobriété, c'est le nom philosophique que les techniciens donnent à l'efficience. Moi je suis pour l'efficience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gaspille entre 50 et 75% de l'énergie qu'on produit, de la nourriture qu'on fabrique, des ressources naturelles qu'on extrait. Et ce gaspillage-là crée des dégâts catastrophiques. Alors si la sobriété, c'est d'arrêter de gaspiller, je suis pour la sobriété, totalement. Maintenant, si la sobriété, c'est de consommer beaucoup moins partout et de mettre plein de gens au chômage, je dirais que ça va être très très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut consommer de manière efficiente. Et il y a un exemple qui est très très intéressant, c'est Engie. Engie commence à gagner plus d'argent en aidant ses clients à consommer moins d'énergie qu'en produisant de l'énergie. Donc c'est un nouveau business model où moins ils vendent d'électricité, plus ils gagnent d'argent. Alors, si on appelle ça de la sobriété, c'est très bien. Moi, j'appelle ça de l'efficience, j'appelle ça de l'intelligence. Finalement, ça revient un peu au même. Mais par contre, les gens ont besoin d'électricité. S'ils ne la gaspillent pas, c'est parfait. Mais ils ont quand même besoin d'en utiliser.
On a Denis qui nous écrit, qui nous dit « Ma maison m'a coûté cher, particulièrement d'ailleurs, dit-il, pour un enseignant. » Et il nous parle des eaux usées, il parle de son système de phytoépuration. « Donc je ne rejette rien, dit-il, dans la mer et je n'ai reçu aucune aide. Pourquoi ?» Est-ce que vous avez le sentiment aussi que les incitations, quel que soit le pays, le nôtre ou un autre pays, d'ailleurs peut-être la Suisse ou ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment que les incitations ne sont pas suffisantes pour que nous nous rendions compte de ce que nous avons à notre disposition, de ce que nous pouvons faire et du coup nous aider à le faire.
C'est un débat intéressant parce que d'un côté, c'est vrai que les incitations feraient avancer beaucoup plus vite. D'un autre côté, si c'est pas rentable, les gens vont résister et vont pas le faire. Donc moi, je mise vraiment sur tout ce qui est rentable pour l'utilisateur. L'histoire qui récupère la chaleur de l'eau de la douche pour chauffer l'eau qui arrive à la douche, c'est quelque chose qui est rentabilisé en 3-4 ans. Donc l'investissement vaut la peine. Et je pense que dans beaucoup de cas, le fait de récupérer de l'eau de pluie pour ou de purifier de l'eau des toilettes pour réutiliser cette eau dans les toilettes, etc., ça devient rentable, même sans subvention.
Gabriel veut revenir sur l'énergie solaire avec vous. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent si votre Solar Impulse pourrait être totalement adapté à une voiture et peut-être plus facilement. Et lui nous dit pourquoi ne pas mettre l'accent sur la couverture solaire des immeubles pour produire notamment de l'eau chaude et de l'électricité. Jusqu'à quel point ce que vous avez expérimenté sur Solar Impulse peut être réutilisé,
duplicable
et notamment en plus petit, plus fonctionnel, oui, notre voiture, oui, une moto ou n'importe quoi de ce genre.
Alors on a une voiture solaire qui a été labellisée par la Fondation Solar Impulse. Parce que le coût des panneaux solaires qui sont mis sur la voiture permettent d'économiser de l'énergie et de prolonger l'autonomie d'une voiture électrique. Donc elle peut se permettre d'avoir moins de poids de batterie. Donc c'est rentable et on l'a labellisé. Maintenant sur les toits de maison, c'est évident. Quand on dit qu'il n'y a pas assez de terre vierge en friche pour mettre des panneaux solaires partout et que ça va gêner l'agriculture, c'est pas vrai. Qu'on commence déjà à mettre des panneaux solaires sur les hangars, sur les usines, sur les toits des maisons, etc. Mais qu'on le fasse aux bons endroits, parce que c'est vrai que si on le fait dans des endroits où il pleut tout le temps, ça nécessitera beaucoup de subventions. Alors que si on le fait dans le sud de la France, c'est totalement rentable déjà aujourd'hui sans subvention.
Et en parlant de grand soleil, tiens, Pascal nous demande ce que vous pensez de couvrir de panneaux solaires le Sahara pour nourrir en électricité tout le continent.
Alors, il n'y aurait pas besoin de couvrir tout le Sahara. On dit qu'il faudrait un carré de 500 km de côté pour alimenter, pour produire l'équivalent de ce dont le monde a besoin. Il faudrait refaire les calculs maintenant. Moi, j'avais vu le calcul il y a 10 ans. Peut-être qu'entre-temps, on consomme encore plus.
La population ayant augmenté.
Sophie Becherel pourra peut-être nous faire le calcul scientifique pour
voir
si c'est toujours valable. Mais c'était le projet Desertec. Pourquoi ça a échoué, c'est que on n'a pas réussi à trouver des accords pour interconnecter au niveau électricité le Sahara, l'Espagne et la France. Donc c'est des questions politiques et administratives. Donc qu'a fait le Maroc ? Le Maroc s'est dit, puisqu'on nous ennuie avec ça, on le fait pour nous. Et ils ont lancé un projet fantastique que Mohamed VI cautionne, et c'est vraiment son bébé énergétique, 52% d'énergie renouvelable au Maroc pour 2030, en sachant qu'ils sont partis de zéro et qu'ils n'ont pas d'énergie fossile, ils doivent tout importer. Donc c'est rentable, ils le font, et j'espère que ça va donner envie effectivement maintenant d'interconnecter le Maroc avec le reste de l'Europe.
Nous avons une question d'un Mathieu qui nous dit « Nous avons une surface maritime extrêmement importante en France, mais des projets d'éoliennes offshore qui en sont au point mort ou pas loin. Savons-nous réellement nous donner les moyens d'énergie renouvelable ?»
Mais vous savez, il y a beaucoup de projets d'énergie renouvelable qui subissent des oppositions de gens qui veulent protéger l'environnement ou protéger les paysages. Donc c'est très paradoxal. Oui. On ne se donne pas assez de moyens pour vraiment créer des sources d'énergie renouvelable à grande échelle.
Qu'est-ce qu'on dit, notamment ce sont des associations écolo notamment, qui interdisent pour l'instant les éoliennes offshore pour beaucoup de raisons, liées notamment à la faune maritime, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'à un moment il faudra choisir entre l'un et l'autre, entre une faune maritime qui restera telle qu'on la connaît, ou qui disparaîtra pour partie parce qu'on aura installé des éoliennes, mais qui nous permettront de dépendre moins des hydrocarbures? Faudra-t-il à un moment choisir, à votre avis?
J'espère qu'on va pouvoir combiner les deux, mais c'est clair que la faune marine est fondamentalement importante et il faut la préserver. Mais moi, je pense que c'est pas avec des éoliennes offshore à 20 km de la côte qu'on va détruire toute la faune marine. La faune marine aujourd'hui, elle est détruite par des plastiques, elle est détruite par des hydrocarbures, elle est détruite par des pêches scandaleuses, à l'électricité, à la dynamite, à des filets qui dérivent, qui attrapent tout sur leur passage. C'est ça qui détruit la faune marine. Alors, il faut quand même être raisonnable. C'est pas les éoliennes offshore qui vont détruire la faune marine. Alors, qu'on s'occupe des vrais problèmes énergétiques, qu'on s'occupe des vrais problèmes de biodiversité, des vrais problèmes économiques, et puis qu'on mélange pas tout.
Tiens, on a Philippe qui nous dit que Greta Thunberg va à la COP25 en bateau. Si Thunberg et Picard s'entraidaient pour traverser l'Atlantique, ce serait une bonne publicité pour les nouveaux moyens de transport écolo. Êtes-vous prêt à traverser l'Atlantique avec Greta Thunberg, Bertrand?
Mais j'aurais adoré, mais le problème c'est que Solar Impulse est encore monoplace. Mais sinon, c'est évident que j'aurais pris Greta. J'aime beaucoup Greta Thunberg. Mm-hmm. Je trouve extrêmement bien que quelqu'un sorte du langage diplomatique pour s'adresser au monde politique et leur dire leur cas de vérité en face. Parce que ceux d'aujourd'hui, les politiciens d'aujourd'hui, sont pas responsables des erreurs de ceux d'avant. Mmh. Mais par contre, ils ne prennent pas suffisamment la responsabilité de changer ce qui a été fait avant pour l'améliorer.
Donc il faut ce ton-là, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un, peut-être qu'il y a des tons différents, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le ton de Greta Thunberg, il faut que quelqu'un nous engueule, nous, cette génération-là, et eux, les politiciens, c'est aussi ça que vous dites.
Mais absolument, mais vous avez vu que depuis une année, les pays commencent à décréter l'urgence climatique parce qu'ils voient qu'ils perdent des électeurs, que les jeunes qui font la grève, ça va être des électeurs d'ici un ou deux ans, ou bien déjà maintenant. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bien, ces grèves du climat.
Et du coup, parce que vous qui déployez des trésors de diplomatie, vous avez justement pas du tout la façon de faire de Greta Thunberg, mais du coup, vous ne pensez pas que ceux qui la méprisent en disant « comment ça, cette petite moutoise », etc., pourraient l'emporter? Il y a quand même des pays qui ne décrètent pas l'urgence climatique et qui vilipendent fortement Greta Thunberg.
Oui, parce que Greta Thunberg dérange.
Et vous croyez que sa méthode quand même porte plus de fruits qu'elle ne crée d'opposition?
Mais absolument, parce qu'avant elle, il y avait quoi? Il y avait le langage politiquement correct où tout le monde parlait très diplomatiquement et ça n'avançait pas. Depuis Greta Thunberg, il y a une urgence climatique qui est votée dans des pays et dans des régions. Alors pas encore partout, mais vous allez voir qu'aux États-Unis, ce mouvement grandit aussi auprès de la jeunesse. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que on est très complémentaires avec Greta. Quand Greta passe avant moi, quand moi j'arrive avec
les
solutions,
vos projets.
Mais j'arrive avec les solutions qu'on a trouvées dans le monde entier avec la Fondation Solar Impulse, et je dis, il y a des solutions, prenons-les tout de suite.
Vous pouvez faire l'inverse, vous arrivez d'abord, personne n'achète rien, elle arrive derrière, et là tout le monde vous rappelle.
Oui. Donc en fait, Greta laboure, moi je plante, et ce qu'il faudrait, c'est que le reste du monde récolte.
Mais cela dit, pour être très sérieux là-dessus, en effet, on a l'impression qu'il y a désormais plein de modes de lutte qui sont différents. Vous avez parlé de Greta Thunberg, il y a vous qui êtes dans des technologies qui sont beaucoup plus pointues. On sait que ça a été beaucoup décrié après pour d'autres raisons, mais on a vu fleurir les Extinction Rebellion aussi dans plusieurs villes.
Je pense que c'est nécessaire.
On a l'impression qu'il y a une espèce de démultiplication désormais des méthodes.
Oui, mais il ne faut pas non plus casser les efforts de ceux qui en font. Emmanuel Macron m'a invité au G7 pour parler au chef d'État des questions environnementales. Et on entend ensuite des gens qui disent « Macron surfe sur la vague écolo ». Mais heureusement qu'il surfe sur la vague écolo plutôt que de s'y opposer. C'est magnifique qu'un président de la République se mouille à fond dans les questions environnementales. Et on en a parlé plusieurs fois, lui et moi, en tête à tête. Et je peux vous dire qu'il est absolument sincère dans son désir de changer le système. Mais si tout le monde lui met les bâtons dans les roues, en disant c'est du greenwashing, c'est clair que ça va pas faire avancer les choses. Il a besoin qu'on le soutienne dans tout ce domaine environnemental parce que il y a énormément, énormément qu'on peut faire si l'État donne une direction, s'il y a vraiment une voie qui est perçue au niveau du public et des entreprises. C'est ça. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que ces entreprises, elles veulent des directives politiques, elles veulent des réglementations, parce que ça enlève la distorsion de concurrence et ça enlève aussi l'incertitude. Si elles savent où investir, ben elles le feront. Mais s'il y a un grand point d'interrogation sur l'avenir, elles ne bougent pas, elles attendent que le monde politique se décide.
Tiens, tenez, Bernard veut attirer votre attention sur la suppression du Perpignan-Rungis. Je ne sais pas si cette information est venue jusqu'à vous, qui est un train de fret qui va être arrêté, remplacé par une trentaine de camions. Et ça va dans le sens inverse, dit-il, du combat climatique et écologique. C'est un grand débat.
C'est des trains qui auraient dû être transformés en trains à hydrogène. Vous savez qu'Alstom est en train de vendre des trains à hydrogène. La région Grand Est, présidée par Jean Rottner, est très très ambitieuse en termes de protection de l'environnement. Ils ont déjà commandé 5 trains à hydrogène.
Voici cette question de Jean-Marc. Pourrait-il y avoir des guerres à cause de l'écologie, nous dit-il? Certains pays pourraient-ils se liguer contre les pays les plus pollueurs?
Alors,
les guerres sont peut-être plutôt liées aux déplacements climatiques qui risquent de faire des déplacements de population qui seront, graves.
Mais complètement, c'est les changements climatiques, eux, qui vont créer des guerres, parce qu'il y aura ou trop d'eau ou pas assez d'eau par endroit, trop chaud ou trop froid à d'autres endroits, des régions invivables et des centaines de millions de migrants climatiques. De réfugiés climatiques, ouais. Ça c'est absolument clair. Maintenant, faire la guerre contre ceux qui polluent, quand vous savez que ceux qui polluent le plus, c'est les Chinois et les Américains, je sais pas qui aurait envie d'aller leur faire la guerre.
Mais est-ce que vous avez le sentiment...
C'est un peu dangereux.
Ah oui, alors est-ce que vous avez le sentiment, puisqu'on parle des Américains qui ont quitté l'accord de Paris, comme on le sait, et on voit bien, y compris à la COP25 là, qu'il y a une délégation d'Américains qui vient en disant, mais nous ferons des efforts, nous, au-delà de la décision de Donald Trump. Est-ce que l'Amérique a encore un rôle à jouer selon vous? Est-ce que là, on est dans la pure publicité? Ou est-ce que oui, selon vous, les États et même les entreprises américaines peuvent être plus fortes que le retrait de Donald Trump?
Voir est-ce que l'Europe doit s'allier à la Chine?
Alors, elle le fait déjà. Parce que c'est clair que Xi Jinping, le président chinois, a clairement accepté de prendre un certain leadership dans la lutte contre les changements climatiques. Et pour ça, il est allié avec Macron, alors qu'avant, il était allié avec Obama. Donc c'est bien. Maintenant, j'ai perdu le fil de ce que je voulais
les
dire.
Les États-Unis.
Oui. Le début de question, c'était est-ce que les entreprises sont plus fortes que Donald Trump au fond quand elles se mettent ensemble?
Alors Arnold Schwarzenegger, qui est l'ancien gouverneur de Californie, a dit une très belle phrase. C'est Trump qui est sorti des accords de Paris, c'est pas les États-Unis. Et quand on voit ce que fait la Californie en termes d'efficience énergétique, le Texas en termes d'éolien, la Virginie en termes de solaire. On voit que Trump est assez marginalisé.
Tout de même, 50% de la population américaine a voté pour lui et il y a des États où on est quand même climato-sceptique, voire climato-négationniste.
C'est juste, mais c'est souvent pas les États qui sont les plus industrialisés qui soutiennent Trump. Parce qu'un État comme la Californie...
Les États charbonniers, Bertrand Piccard,
oui, là pour le coup. Les vieilles industries qui sont pas rentables et qui ont besoin de subventions. Vous savez qu'aux États-Unis, le musée du charbon dans le Kentucky est alimenté par des panneaux solaires sur le toit, parce que c'est moins cher que le charbon.
Mais quand même, grâce au gaz de schiste, les Américains sont pour l'instant autonomes en énergie fossile. Donc pour l'instant, ça tient leur modèle.
Tout à fait, mais c'est plus cher, malgré tout, que des panneaux solaires. La Californie l'a montré. La Californie a stabilisé ses émissions de CO2 alors que le reste des États-Unis continue à les augmenter. Or, la Californie a une croissance économique double de celle des États-Unis, 5% au lieu de 2,5%, alors qu'ils n'émettent pas plus de CO2 cette année qu'il y a 5 ans. C'est quand même intéressant. Et comment réagit Trump? Trump attaque l'État de Californie en justice pour les obliger d'annuler la loi qu'ils ont faite pour avoir des voitures propres en Californie. Donc c'est clair que c'est une espèce de monomanie.
Oui, c'est un mode de pensée.
C'est un mode de pensée, mais c'est le mode de pensée des ultralibéralistes. C'est ça qu'il faut voir. L'ultralibéralisme, c'est enlever toutes les réglementations pour que les gens puissent faire un peu ce qu'ils veulent. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que pour vivre en société, il faut des règlements, il faut des lois, il faut des règles, il faut des accords, il faut une compréhension mutuelle.
Mais avec quand même une tendance aussi, alors elle peut aussi être réversible, elle l'est tout autant qu'un vote peut dire oui et dire non, mais on a cité Trump à l'instant, on a un Bolsonaro qui fait des dégâts considérables dans sa propre Amazonie, enfin, il y a quand même une poussée qui existe, et c'est pas des petits pays, tout ça, qui sont des vraies poussées climato-sceptiques.
Oui.
Les eurosceptiques sont encore dans notre endroit, mais en général, l'eurosceptique est très souvent climato-sceptique aussi.
Non, mais
on a de vraies poussées comme
ça,
c'est un sacré pays.
Il y a ceux qui n'ont pas compris que s'ils veulent booster leur économie et recréer de l'emploi, ils sont obligés de se mettre dans les technologies propres et les énergies renouvelables. Ça, c'est un fait, c'est clair, ça marche. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Et il y a aussi ceux qui sont simplement tellement égoïstes qu'ils s'en fichent de tout. C'est-à-dire qu'ils ont des intérêts dans un domaine et ça leur est complètement égal que le reste des gens souffrent. Vous savez, il y a 3% de psychopathes dans la population. Mais le psychopathe, c'est celui qui n'a aucune compassion.
À nouveau, le psychanalyste
est absolument incapable de se mettre à la place de l'autre. Ce qui veut dire que les psychopathes se développent de manière beaucoup plus nombreuse et abondante dans les hautes sphères de la politique et de l'économie et de la finance. Parce que quand on n'a pas de scrupules, on monte plus haut que quand on en a. Et le résultat, c'est qu'il y a des pays qui sont effectivement dirigés par des gens qui sont dangereux. Mais ça a toujours été le cas.
Quelques questions en rafale, un peu pour terminer, Bertrand Picard. Questions rapides et réponses rapides. Les panneaux solaires sont-ils réellement recyclables, nous demande Nicolas.
Alors oui, complètement, c'est une filière industrielle et il y a même une obligation légale de recycler les panneaux solaires, mais tout en sachant que les panneaux solaires, ça fonctionne 30 ou 40 ans de suite. Par conséquent, c'est pas un gros problème de déchets. Et en plus de ça, les panneaux solaires dans le sud de la France mettent 6 mois seulement à rembourser l'énergie grise qu'il a fallu pour les fabriquer. Tout le reste après, c'est de l'énergie totalement propre.
Quel est le problème du recyclage des batteries, nous demande Richard.
Les batteries, c'est une industrie également. Je crois que c'est 4 000 euros la tonne pour recycler des batteries. Ça crée des emplois de recycler des batteries. Mais maintenant, il ne faut pas les recycler trop tôt. Parce que quand elles sont plus aptes à aller dans les voitures, il faut les mettre dans les maisons pour stocker l'énergie alternative quand il y en a et restituer cette énergie quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent.
Les énergies vertes, on en parlait un petit peu en début d'émission, sont dépendantes de métaux rares dont l'exploitation en Chine est extrêmement polluante. En Chine et en Afrique d'ailleurs, ajouterais-je, ces énergies vertes sont-elles vraiment si vertes que ça au fond ?
Elles ne sont pas forcément complètement vertes, mais il faut voir que tant que l'être humain veut fonctionner et avoir une certaine qualité de vie, il crée un certain impact sur l'environnement. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on préfère quelques degrés en plus dans l'atmosphère ou quelques mines de cobalt ou de métaux rares dans certains endroits du monde où ils pourraient être circoncis par des règlements très respectueux de l'environnement, par des droits humains, etc. C'est clair que localement, on peut agir beaucoup plus facilement sur une mine que sur le CO2 qui n'a pas de frontières dans sa circulation autour de la Terre.
Noémie a deux propositions à faire pour économiser l'énergie, notamment dans les grandes villes touristiques comme Paris. Remplacer les cars de tourisme qui restent allumés sans passagers, été comme hiver, par des bus électriques de la mairie. Ça, évidemment que ce serait tellement simple. Interdire les terrasses de café chauffées. On est aussi dans notre paradoxe, celui dont on parlait tout à l'heure.
C'est clair que chauffer des terrasses de café avec
un peu chauffer
du
la
gaz,
rue, quoi.
On chauffe l'extérieur, je trouve ça aberrant. Mais il y a d'autres choses plus importantes que ça à faire. Si on veut vraiment avoir une mobilité propre à Paris, il faut ouvrir les voies de berge aux voitures propres. Et à ce moment-là, je vous promets que tous les automobilistes qui seront bloqués dans les embouteillages avec leur moteur à combustion vont se dire « Oh là là, si j'avais une voiture propre, je pourrais échapper aux bouchons, échapper aux embouteillages. » C'est ça qu'il faut faire. Et vous savez quelle est la limite de cette application-là ? C'est le fait que les voitures propres aujourd'hui sont plus chères que les voitures sales.
Et
que si,
bien
on,
plus
ouvre,
cher,
et que si on ouvre des voies spéciales pour les voitures propres, ça veut dire un peu on laisse que les riches circuler sans embouteillage. Par conséquent, il faut que ce soit simultanément organisé, qu'on puisse avoir des locations de voitures propres, qu'on puisse avoir du leasing de voitures propres, ou alors qu'on prenne des voitures à très faible émission, comme ça les gens qui ont vraiment peu de moyens et qui ont une petite voiture pourront aussi circuler sur les voies des voitures électriques.
Voici cette question de Julien qui, moi personnellement, me laisse un peu sans voix, mais vous allez me dire, en plus d'être un engrais miraculeux, l'urine produit par les habitants d'un pays comme la Hollande, par exemple, permettrait de fournir en énergie énormément de monde, voire de faire décoller une fusée. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, il y a de l'ammoniac dans l'urine. Et c'est vrai qu'avec l'ammoniac, on peut faire du carburant. Maintenant, je pense que les urines et les excréments seraient mieux utilisés dans des fermentateurs de biogaz pour faire du gaz ou pour faire des engrais naturels pour l'agriculture.
Bon ben voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci mille fois Bertrand Picard. Je voudrais quand même vous laisser sur ce mot de Caroline qui dit « Quel bonheur de vous entendre parler de ces sujets fondamentaux avec autant d'intelligence et de bienveillance. Vous nous redonnez espoir, merci. » Eh ben écoutez, tant mieux.
Merci Caroline.
Eh ben Caroline, Bertrand Picard vous a entendu. Merci mille fois.